si on résume un peu la situation ce matin suite aux propos du premier ministre Legault, d'abord, il n'y a pas de confinement en vue. La vaccination, on a atteint des niveaux quand même majeurs au Québec, 80 % et plus pour ce qui est de la première dose. Mais il reste quoi? 13 % de gens qui refusent la vaccination pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est de la paresse. D'autres fois, c'est par conviction. Et hier, Québec a confirmé que tous les employés du réseau de la santé devront être vaccinés, avoir les deux doses, sans quoi ils seront suspendus sans le solde. L'échéance est le 15 octobre, ce qui veut dire en pratique que vous devez vous faire vacciner, si ce n'est pas fait, dans les prochains jours pour avoir donc les deux doses pleines. Le Dr Weiss disait hier matin, il y a deux catégories de patients COVID actuellement dans le réseau. On a des jeunes non vaccinés et qui occupent des lits. Je parle toujours des gens hospitalisés, là, des lits pendant de longues périodes de temps. Puis on a des gens qui sont déjà et correctement vaccinés, mais qui ont des antécédents médicaux ou des problèmes de santé qui les rendent plus vulnérables. Tout ça nous amène à regarder donc l'état du réseau de la santé puis de cette politique de vaccination. Est-ce que y a bien des gens qui vont aller vers le congé sans solde plutôt que de se faire vacciner? Je parle de tout ça avec Dr Amélie Boisclair, qui est intensiviste à l'hôpital Pierre-Legardeur. Dr Boisclair, bonjour.
Bonjour, M. Arquin.
D'abord, quand on va mettre en vigueur là, le 15 octobre la mesure, avez-vous l'impression que ça va toucher directement les équipes qui travaillent avec vous, qui va manquer de personnel, qu'autrement dit, on va se ramasser dans une situation difficile?
Bien, on est déjà dans une situation difficile, mais c'est pas l'obligation de la vaccination qui va créer ça. Parce que dans mon équipe, dès que le vaccin est sorti, on s'est tous précipités pour l'avoir. Les équipes médicales, les soignants directs avec les patients sont en grande majorité déjà toutes complètement vaccinées.
Donc, ce ne sera pas un enjeu pour vous, terrain?
Non.
C'est quoi l'enjeu?
J'ai pas l'impression.
C'est quoi l'enjeu terrain pour vous?
L'enjeu terrain, ben il faut que je garde mon équipe. Vous avez vu, vous avez parlé avec Amy Coutu, qui est une infirmière qui travaillait avec moi, dont je salue l'entrevue, là, qui a quitté. Mais Amy, c'est plusieurs infirmières là qui ont le même discours. Puis c'est pas un discours qui date de quelques mois, quelques semaines. Ça fait plusieurs années hein, pour celles qui ont le plus d'expérience, qui m'en parlent. Mais là, toute la pandémie a exacerbé ça avec leur fatigue, le manque de vacances. Puis, c'est pas un enjeu de vaccination. Ils se sont fait vacciner. Là. Ils veulent pouvoir offrir des soins de qualité à leurs patients. Tout tourne autour de ça.
Et vous me corrigerez, là, mais à chaque fois que je parle avec des infirmières, que je lis des courriels d'infirmières, puis on peut parler des autres employés, mais parlons des infirmières ce matin, là. C'est pas la paye qui est souvent l'enjeu, là. Ça fait partie là, des conditions, mais c'est pas en augmentant les salaires qu'on va régler le problème.
Ben, je suis d'accord avec vous. T'sais, c'est sûr que moi, je suis pas infirmière, je fais pas partie, mais je parle beaucoup avec mon équipe. Hein. On est une petite famille, puis j'essaie vraiment de comprendre. T'sais, des fois, on se dit, ben, peut-être que je peux avoir ma... Comment je peux aider, là, t'sais, comme médecin? Puis le salaire ne revient jamais sur les discussions, là. C'est jamais, en fait.
C'est quoi le problème? C'est le temps supplémentaire obligatoire, c'est l'absence de congés. Moi, je vois des témoignages sur les réseaux sociaux. Hier, Mme Coutu en a fait un, mais il y en a d'autres là, qui décident de partir, puis d'autres qui partent qui font pas de bruit non plus. Là.
Ben exactement, mais il y a beaucoup d'enjeux. Hein. Souvent, c'est ben justement les horaires, c'est un gros problème. Moi, ce que j'ai noté, c'est que... Parce que c'est sûr qu'ils ont un système qui est complètement différent du mien. Fait qu'à chaque fois, je m'informe de savoir comment ça marche. Le nombre de fois, j'ai dit, ben voyons donc. Puis, tu sais, en me disant, ben, je peux pas croire que ça fonctionne comme ça. Mais oui, il y a des horaires qui sont changés à la dernière minute. Le TSO qui sont imposés, mais qui revient sur une base très régulière. Puis fait qu'ils sont jamais capables de planifier leur vie personnelle, leur vie familiale. La fatigue qui s'accumule, tu sais, puis souvent, moi, ce que je vois, c'est qu'ils s'inquiètent pour les ratios d'infirmières pour leurs patients. Les patients sont aux soins intensifs, on a les patients les plus malades de l'hôpital. Mais les patients, ces temps-ci, sont encore plus malades qu'ils étaient. Fait que on peut pas dire qu'une infirmière jumelée avec un patient plus lourd, un patient plus léger pour équilibrer la tâche, là. Fait que, tu sais, là, ils s'inquiètent beaucoup que les ratios, ils veulent offrir des soins de qualité. Ils sont submergés de paperasses qu'ils doivent remplir ou des affaires qui, selon moi, ne devraient pas être faites par une infirmière parce que ça occupe de leur temps de façon inappropriée, surtout ces temps-ci. Mais c'est vraiment ce qui les préoccupe, c'est leur capacité d'offrir des soins de qualité. La priorité, c'est toujours le patient. Puis, ils essayent de proposer des solutions qui sont applicables au niveau local. Mais de ce que je comprends, là, c'est qu'il y a une rigidité dans le système qui fait que une solution doit être applicable à peu près partout. Puis ça, bien, ça n'arrive pas.
Autrement dit, si ça marche dans votre hôpital, il faudrait que ça marche partout dans le territoire du CIS, sinon on ne le fait pas.
Bien, c'est ma compréhension. Okay. Après, je dirais que ça confirmait avec le gestionnaire, là, mais tu sais, on a des milieux qui sont tellement différents, même en deux hôpitaux. Ça peut être soit la culture de l'hôpital, soit la clientèle qui est visée. Fait que c'est sûr, tu sais, puis les équipes aussi, peut-être que ce qui fonctionne bien dans mon équipe n'est pas approprié pour l'équipe qui fait les soins intensifs d'un autre hôpital, puis c'est correct. Mais la capacité d'avoir une décision sur comment je fonctionne avec mon équipe, comment on fonctionne en tant que famille, c'est ce qui nous unit. C'est ce qui fait une grosse différence sur ta perception aussi de la charge de travail puis de la reconnaissance qu'on donne à ta voix comme expert sur le terrain pour dire « voici ce dont j'ai besoin pour bien faire mon travail ». C'est là que ça bloque.
On voit que les infirmières qui s'expriment sur les réseaux sociaux signent leur message avec bon leur nom et leur numéro matricule aussi.
Oui, ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce que... moi, bon, tu sais, j'ai commencé ma médecine, disons, en 2003, mais ça fait 6 ans là, que j'ai complété mes études puis que je travaille comme patron. Puis au début, j'ai jamais, je les ai entendus utiliser leur numéro de matricule. Jamais. Tu sais, c'était vraiment, c'est plus convivial, c'était par leur nom. Puis là, quand ils m'ont dit, mais non, dans les communications, c'est comme ça. Puis on est des numéros, on se sent comme des numéros. Là, j'étais comme, ouf, on a un gros problème. Parce que là, qu'est-ce qui nous tient ensemble? C'est l'impression d'être unis pour combattre une pandémie. Puis pour ça, ben je travaille avec Amy. Je travaille avec Nancy, Brigitte, Mélanie. Je travaille pas avec des numéros de matricule. Tu sais, c'est cette force-là ensemble qui fait qu'on offre des soins à nos patients puis qu'ils s'en sortent. On a besoin de cette cohésion-là. Fait que là, quand je les ai vus commencer à utiliser leur numéro de matricule, tu sais, je me dis, oh là là, il y a quelqu'un qui doit se pencher sur ce problème-là. Puis non, c'est pas une question de salaire, c'est une question de qualité des soins offerts. Et c'est des professionnels. Tu sais, c'est professionnels, ils veulent bien travailler. Puis moi, c'est ce que je ressens. Tu sais, je passe beaucoup de temps à parler avec elles parce que ça me préoccupe beaucoup. Parce qu'en même temps, ben moi, comme médecin des soins intensifs, qu'est-ce que vous voulez que je fasse si je n'ai pas une équipe qualifiée autour de moi?
C'est sûr. Merci d'avoir pris ce temps-là pour nous ce matin. Bonne journée, Dr. Boisclair.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Dr. Amélie Boisclair est intensiviste à l'hôpital Pierre-Legardeur.